Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
L'Antiquité est plus que jamais vivante et vous allez le constater, chers auditeurs d'Antiquissimo, avec notre invité d'aujourd'hui que je salue tout de suite et vous ne le connaissez pas encore mais il gagne beaucoup à être connu, c'est Jérémy Averbeck, si j'ai bien prononcé son nom.
C'est bien ça, Madame Aziza, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui.
Alors Fréjus, c'est pas très loin de Nîmes, hein, donc nous l'avons prouvé puisque l'association Carpe Fush, il y a peu de temps, a fait la visite et l'aller-retour dans la journée, c'est possible. Et il y a énormément de choses à voir et c'est une agréable surprise de voir autant de vestiges de cette ville qui s'appelait Forum Iulii dans l'Antiquité. Et dont on va à la fois retracer un peu l'histoire et puis indiquer toutes les possibilités de visite. Mais tout d'abord, Jérémy, votre nom, vous allez me dire si je me trompe, sonne nordique, non ?
Ça vient du nord de la France, effectivement, oui.
Et alors, comment avez-vous migré vers le sud ? Alors, on sait pourquoi, parce que c'est génial, le sud, mais comment ça s'est passé ?
Bah écoutez, le Nord, c'est une région très chaleureuse, hein, mais il manque de soleil là-bas. Donc mes parents, voulant un peu déménager au soleil, ont fait le choix de venir dans le sud de la France. Leur choix s'est porté sur Fréjus. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivé ici. C'est par rapport à la météo, tout simplement, en fait.
Bon, ben, vous avez drôlement bien fait. Donc, dans une émission précédente, nous avions déjà évoqué Forum Iulii, mais c'était avec un romancier, Thierry Bontou, oui. Et avec son livre, son intrigue policière, qu'il avait choisi d'inscrire dans cette ville. Donc, nous en avons un petit peu parlé. Mais aujourd'hui, j'ai appelé l'émission Forum Iulii en vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans la fiction, c'est dans la réalité de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans cette petite ville du Midi. On évoquait votre migration vers le sud et vos études. Donc, je pense que vous avez fait vos études à Nice.
C'est bien ça, oui, l'Université de Nice, en fait. Hein. Moi, j'ai commencé tout simplement par une licence d'histoire, d'archéologie, d'histoire de l'art à Nice, donc. J'ai fait le choix ensuite de me porter vers le guidage, hein, tout simplement, parce que ce qui m'intéressait, c'était donc étudier l'histoire, étudier tout ce qui est antiquité, archéologie, mais c'était aussi surtout de le transmettre. Hein, donc, le choix a été plus ou moins logique. Hein. En fait, on peut se porter soit vers l'enseignement, soit vers le guidage. Moi, je me suis plutôt porté vers le guidage, donc une année en plus, hein, une petite année de licence professionnelle en plus pour devenir guide. Et donc me voilà aujourd'hui donc, à l'office de tourisme de Fréjus en tant que guide conférencier, celui qui anime mes visites tous les jours de l'année, du lundi au vendredi.
Alors même le lundi de Pâques par exemple, tous les jours?
Même le lundi de Pâques, oui, je serai là à 14h30 pour celles et ceux qui veulent venir nous rendre visite. Hein. Bon, après je prends des congés évidemment de temps en temps, mais on peut toujours faire des visites à Fréjus, c'est un petit peu la promesse de notre ville en fait, hein, et la volonté des élus ici, puisque on va en parler justement, on a un patrimoine qui est vraiment, vraiment complet, pas que romain d'ailleurs, on n'est pas que sur l'Antiquité, même si aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler.
Oui, parce que moi je suis monomaniaque, hein, faut pas l'oublier.
Oui, mais moi aussi je partage un peu votre passion. Hein. Mais on a, bon évidemment, on en parlera beaucoup de monuments romains ou de monuments antiques, mais on a un peu de patrimoine médiéval aussi. On a une cathédrale, on a un cloître, pas mal d'éléments modernes aussi. On a un rempart, une portion de rempart incroyable. Donc au total, en fait, si on fait le compte, on est à 30 monuments qui sont classés ou inscrits monuments historiques à Fréjus. Et donc le but de la manœuvre, c'est de les faire vivre, ces monuments. Donc c'est pas de laisser les gens débarquer sans savoir un peu ce qu'ils regardent. Hein. Donc c'est un peu la volonté qui a été poussée ici. Donc ça a été de proposer des visites de l'année, des visites guidées tout au long de l'année. Pour les particuliers et donc tous les jours, mais aussi pour les groupes. Hein, vous en avez donc fait les frais vous-même, hein, vous l'avez vu. On accueille aussi les groupes à des horaires particuliers, pendant des périodes qui peuvent être plus intéressantes pour eux. Donc il y a toujours un moyen de visiter Fréjus avec un guide.
Donc on cherche sur le net les coordonnées du syndicat d'initiative et soit par mail, soit par téléphone, on vous contacte.
Voilà, en fait, le plus simple, je dirais, c'est de taper fréjus.fr, tout simplement, vous tomberez sur le site de l'Office de tourisme. Hein. Il y a un onglet visite guidée qui décrit un peu, qui détaille toutes les visites qu'on propose, hein, donc plutôt sur le patrimoine romain, plutôt sur le barrage de Malpassé, sur le centre historique. Il y a vraiment plein de thématiques qui se complètent, je dirais, en plus. Hein. Donc chaque jour il y a une visite différente et si vous voulez, si vous êtes un groupe d'amis, une association, une visite privée c'est possible. Hein. Il y a mes coordonnées, il y a les coordonnées du syndicat d'initiative sur le site et donc on pourra s'arranger pour organiser ça.
Oui, ça s'est fait très rapidement et très simplement. Alors, j'ai lu justement sur ce fameux site que vous aviez débarqué, entre guillemets, en 2022 pour reprendre la suite de quelqu'un qui partait en retraite. Et c'est tout jeune, hein, parce que vous aviez 24 ans, je crois, que vous avez entrepris ce challenge.
Oui, alors moi, j'ai eu une chance assez folle, finalement. Hein, c'est que j'ai terminé mes études, donc comme on disait, en 2021, finalement. J'habitais donc à Fréjus et donc... tout simplement, en fait, j'ai voulu postuler donc dans la ville où je vivais, donc en tant que guide conférencier. Il y avait justement donc l'office de tourisme qui avait un poste vacant puisqu'on avait un départ à la retraite qui s'amorçait. Et donc j'ai réussi finalement donc par chance finalement à récupérer ce poste. Et donc aujourd'hui c'est moi qui suis donc le guide conférencier attitré, on pourrait dire, de l'office de tourisme. Donc quel meilleur terrain de jeu que Fréjus, hein, quand on est passionné d'histoire et d'histoire antique surtout, que de se retrouver à Fréjus, à deux pas de chez soi, et donc de pouvoir faire visiter des monuments incroyables, à tout un panel de monuments, mais on va en parler plus en détail.
Oui, alors ce goût pour l'Antiquité, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez tout petit, comment ça s'est fait ?
Bah écoutez, moi je dirais que pas forcément pour l'Antiquité, mais le goût de l'histoire, moi ça m'est venu avec les jeux vidéo, en fait, quand je me rappelle bien, parce que on a... Bah, ça vous parlera, ça parlera sûrement à beaucoup, parce que c'est une licence qui est très connue, c'est Assassin's Creed, hein,
ben
une
oui.
licence de jeux vidéo qui permet aux joueurs de se replonger dans le passé, de recréer des sites antiques, ou pas que justement, mais surtout antiques, et donc de se balader dans des villes à taille humaine, comme si on y était il y a 2000 ans. Donc c'est ça qui m'a vraiment donné le goût, et j'ai trouvé ça complètement incroyable, et donc ça m'a permis de tomber là-dedans.
Donc voilà, c'est formidable de joindre sa passion à sa profession. C'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est merveilleux. Donc vous, quand vous organisez une visite, donc bien sûr les personnes vous disent qu'est-ce qu'elles attendent. Si c'est l'Antiquité, vous leur dites que ça va durer combien de temps cette visite guidée ?
Alors une visite des monuments antiques comme on la propose habituellement, il faut compter 2 bonnes heures et demie. Il ne faut pas avoir peur de marcher aussi parce qu'on est sur à peu près 5 km, hein, donc il y a énormément de choses à voir. Même si en réalité, voilà, ce qu'on propose en tant que visite guidée romaine, disons, on ne voit qu'une partie des vestiges, hein, puisqu'il y a une partie qui n'est pas encore ouverte au public, elle le sera bientôt. On a justement une direction de l'archéologie du patrimoine qui travaille d'arrache-pied, qui va proposer très bientôt de nouveaux sites à visiter. Donc voilà, c'est 2 heures et demie pour faire la partie émergée de l'iceberg, je dirais. Si on veut pousser pour ceux qui sont très intéressés, on peut passer toute une journée, une matinée, une après-midi, on peut clairement y passer toute une journée à Fréjus, en fait, hein, si on veut vraiment voir de l'antique.
Alors, avant de détailler tout ce qu'on pourrait voir et que les auditeurs iront voir, j'en suis sûre, on va quand même faire un petit tour historique pour recontextualiser ce site, ces monuments. C'est sous Jules César que ce port militaire voit le jour.
C'est bien ça. Alors, Forum Iuli, donc, hein, c'est une fondation, il semblerait, ex nihilo. C'est-à-dire que contrairement à Nîmes ou Arles, qu'on le sait bien, qui étaient déjà occupés par des populations précédemment romains, disons, la ville de Forum Iuli, c'est une fondation qui part de rien, en fait, hein, qui a été 100% créée par les Romains. On le sait parce que, tout simplement, dans le nom de la ville, hein, Forum Iuli, il n'y a aucune trace d'un peuple précédent, comme c'est le cas à Nîmes, comme c'est le cas à Arles ou dans tant d'autres. Hein. Forum Iuli semble être une fondation complètement romaine, disons. Hein. Même si ce n'est pas totalement vrai, puisqu'on se rend compte que l'archéologie, qui nous a appris pas mal de choses, hein, on n'est pas que sur les textes, finalement, on est aussi sur l'archéologie, qui a permis de compléter le savoir. On se rend compte qu'il y a une légère fréquentation avant l'occupation romaine. Alors, on ne parle pas d'occupation, on parle vraiment de fréquentation. On sait qu'il y a une cabane, on sait qu'il y a quelque chose. Il y a une population, manifestement, qui a posé ses affaires ici avant que les Romains arrivent. Mais la vraie création de la ville, c'est sous Jules César. Il faut à peu près le placer vers 49 avant Jésus-Christ, en fait. Hein. On est en pleine période de guerre civile à l'époque. Voilà. Hein. Donc César et Pompée, hein, le grand conflit, disons. Dans ce contexte de guerre civile, on sait que Jules César passe dans le coin, passe en Narbonnaise finalement. Il passe là, donc en 49 avant Jésus-Christ, quand il va faire le siège de la ville de Marseille. La ville de Marseille qui a fait
qui s'était alliée à Pompée. Donc il y a eu des représailles.
Qui n'a pas eu de nez creux, disons. Donc César s'en va faire le siège de la ville, qui durera 6 mois, nous disent les textes. Hein. Si vous allez d'ailleurs à Marseille aujourd'hui, j'en profite, vous verrez qu'au musée d'histoire de Marseille, qui est sous le centre-bourse, vous avez encore la trace.
Ah oui, fabuleux, fabuleux.
Il est fabuleux, en plus c'est gratuit, donc c'est vrai, si les auditeurs sont dans la région, dans les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment valoir le coup d'œil. Vous avez encore donc les restes de ces remparts hellénistiques qui ont subi le siège de César. Vous avez des boulets aussi qu'on pense être datés de l'époque césarienne et donc qui auraient servi à César à faire ce siège de la ville. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer la création de Fréjus en fait. César s'en va faire la guerre à Marseille, il fait le siège de Marseille et donc dans la foulée, il fonde Forum Iuli sur le passage entre Rome et Marseille. C'est très certainement une base arrière, en fait, dans les premiers temps.
Voilà, c'est stratégique, c'est complètement
stratégique. Voilà, c'est pour alimenter le siège, en fait, parce que 6 mois de siège, il faut bien nourrir les troupes, il faut bien ravitailler. Et donc, c'est sur le chemin, finalement, que César aurait décidé de poser un premier jalon qui aurait été Forum Iuli.
Alors, ce qui se dit aussi, parce que c'est simplement le début, commence une ère de prospérité, c'est que on peut être ému quand on va à Fréjus. Alors, on n'est plus tout à fait au bord de mer vous nous expliquerez ça peut-être tout à l'heure, quand on visite ce site, mais on peut imaginer comment les habitants, donc ces soldats qui se sont mariés, qui ont fait souche sur le site, on peut imaginer comment ils ont regardé de loin les navires de Cléopâtre dans le coin, dans la rade.
Effectivement, oui, parce que, alors là, on avance un peu dans le temps, puisque donc c'est une première fondation, un premier embryon de ville qui est donc se développe sous Jules César. Mais on sait que la vraie naissance de la ville, en réalité, la vraie naissance de, comme beaucoup de villes de Narbonnaise, finalement, c'est sous Auguste que ça se passe, sous l'empereur Auguste. Donc là, on est en 31 avant Jésus-Christ. Octave, qui n'est pas encore Auguste d'ailleurs, Octave remporte sa grande bataille à Actium, donc contre les forces de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Une grande bataille navale, donc. Il récupère, nous disent les textes, les navires de Marc-Antoine. Et donc, Tacite nous dit que Octave donc décide d'envoyer ces navires-là, de les récupérer pour son compte et de les envoyer à Forum Iuli, en fait, dans ce qui deviendra en fait un début de base militaire, de base navale, si vous voulez. Donc c'est vrai que premier grand événement premier acte de naissance de cette ville-là, en fait, c'est donc la réception, en fait, de la prise de ces navires qui ont été envoyés à Forum Iuli. Et donc oui, c'est vrai que ces soldats, donc c'est cette première population militaire, a vu débarquer finalement les galères, les quelques centaines de galères de Marc-Antoine qui sont venus donc rejoindre les rangs de la flotte romaine.
Alors il y a peut-être des petits bouts enfouis sous les mers encore, des épaves.
Peut-être bien. On n'y est pas encore parce que donc vous le savez vous-même, mais donc le port romain de Fréjus, qui est un des plus grands ports de guerre de l'Empire à l'époque, on est sur une quinzaine d'hectares, l'un des plus grands et l'un des plus importants.
Oui, je crois qu'il est le deuxième après Ostie, c'est ça ?
Non, le troisième en réalité. Alors, ça c'est Tacite qui nous l'apprend donc à son époque. Il nous parle donc des ports romains donc en activité sous le règne de Tibère, disons. Et donc il fait une liste, tout simplement. Il nous parle de Misène, de Ravenne, donc deux ports qui sont sur les côtes de l'Italie et qui protègent donc finalement Rome. Le troisième dans la liste, selon lui, c'est Forum Iuli, donc ce port qui est sur les côtes de Narbonnaise et qui protège finalement cet accès à la Méditerranée, en fait. Donc, il faut imaginer que Rome est complètement bouclée, ou l'Empire est complètement bouclé. C'est-à-dire qu'il y a des flottes un peu partout qui sont disséminées tout le long de la Méditerranée. Et en termes d'importance, Tacite situe Forum Iuli en troisième position. Donc, ce qui nous permet vraiment de dire que c'est un... Et manifestement, vu la taille du port, effectivement, on peut très bien comprendre que oui, c'est effectivement l'un des plus importants, l'un des plus grands et l'un des plus puissants, finalement.
Et alors, quand est-ce qu'on peut estimer que cet endroit périclite et ne connaît plus l'avantage qu'on vient de donner ?
Alors justement, on le disait, donc la raison d'être de la ville, c'est le port, en fait. Si elle existe à l'époque, à l'origine, c'est parce qu'il y a un port, c'est parce qu'elle a une position littorale qui est privilégiée. Ensuite, Octave prend la décision d'envoyer les navires à Fréjus, donc d'en faire une grande base navale, un grand port militaire. Et donc finalement, le destin de la ville est lié au port. Sauf que ce port, malheureusement, on en a parlé quand vous êtes venu vous-même, ce port aujourd'hui, ce grand port romain, n'existe plus. Il a été ensablé, enseveli. Il y a une grosse problématique d'expulsion sédimentaire à Fréjus, parce qu'il y a un fleuve qui se jette dans la mer à Fréjus, le fleuve de l'Argent. Ce qui fait qu'avec une expulsion sédimentaire qui arrive dès l'époque romaine, en fait, ce fameux bassin portuaire, ce fameux port romain a été complètement enseveli, complètement ensablé, ce qui fait que la ville a complètement décliné, en fait. Et ça, il faut le replacer à peu près au début fin du deuxième siècle, début du troisième siècle, en fait. Dès cette époque-là, le port commence à être ensablé, il commence à être très compliqué de naviguer dans le port, manifestement. Et on se doute qu'à cette époque-là, même si on n'a aucune trace textuelle, mais archéologiquement, on s'en doute, la ville perd son rôle de base navale. C'est-à-dire que très certainement, la flotte, elle est déplacée ailleurs. On ne sait pas vraiment où, mais on sait que les navires quittent Fréjus finalement. Elle perd son rôle de port militaire stratégique. Elle perd son rôle de port économique dans la foulée. Et donc, elle décline fortement. Et c'est vrai que dès le début du IIIe siècle, ce qui est plus ou moins commun à pas mal de villes, hein, parce qu'il y a une grosse crise économique au IIIe siècle dans l'Empire romain, mais déjà au début du IIIe à Fréjus, vous avez des quartiers antiques qui sont complètement abandonnés, qui sont complètement pillés aussi, hein, démolis. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on date vraiment le déclin de la ville, hein, donc au début du IIIe siècle.
Bon, vous êtes intarissable et on a toujours envie de vous écouter, mais nous allons quand même marquer une petite pause musicale avec les chœurs de Sartène. C'est quand même, on va entendre du corse, qui est une langue très, très proche du latin. C'est un hommage à la Corse dans la chanson et aussi de ma part, et un hommage au Festival de musique sacrée qui a lieu à Fréjus en juin chaque année et où on a entendu ces chœurs de Sartène. À tout de suite.
Per quello che è lontano e sta vicina di te, io credo. Per quello che chiamo in vano e si riconosce in te, io credo. Per la terra disperata chi cerca la colombe. Cantala sopra me, io credo. Per un zintero che nasce in Emania fratellanzio vero, e l'agnello ciò che pasce in un prato di speranzio vero. Girava per il mare, io credo, per un gioco di campane, musica universale, io credo, per il cuore di un mondo che a miseria non liscio la vita che finisce o
Alors, nous sommes toujours avec Jérémy Averbeck du syndicat d'initiative de la ville de Fréjus et nous parlons avec passion de Forum Iuli. Et Jérémy va nous donner maintenant quelques pistes pour visiter avec lui, bien sûr, sous sa férule, quelques sites importants. Alors, je vous laisse nous guider, cher Jérémy. Qu'allons-nous voir ?
Écoutez, Forum Iuli, donc Fréjus, comme tant d'autres, en fait, ça devient une colonie romaine. Hein, donc, elle s'équipe de toute une parure monumentale qu'on retrouve un peu partout, finalement. Vous avez un théâtre antique, vous avez un amphithéâtre aussi, vous avez des thermes, évidemment. Hein. Donc, je dirais qu'on a les incontournables hein, qu'on voit un petit peu partout. Ce qui fait la particularité de Fréjus en réalité, c'est que pendant très longtemps, elle est restée un petit village en réalité, hein, jusqu'en 1960 à peu près, contrairement aux villes du littoral qui ont pas mal subi l'urbanisme effréné. Fréjus, elle a échappé un petit peu à tout ça. Ce qui fait que pendant très longtemps, il y a pas mal de sites qui ont été épargnés. Le site antique, hein, j'entends. Oui. Donc, vous avez à Fréjus, hein, contrairement à... Parce qu'on parle souvent de villes très anciennes hein, qui ont un passé incroyable. On parlait de Marseille précédemment. Ben voilà, Marseille, la plus vieille ville de France, soi-disant. Hein, donc, 600 avant Jésus-Christ. Vous allez à Marseille aujourd'hui, malheureusement, d'antique, il n'y a plus grand-chose à voir, en fait. Mmh. Hein, il n'y a plus rien de grec. Il y a très peu de romains aussi. Donc, c'est très compliqué. Fréjus, elle a échappé un peu à tout ça parce que donc elle n'a pas été urbanisée à outrance. Pas à l'époque, en tout cas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de choses qu'on peut voir et qui sont plutôt en bon état. Donc vous avez alors le théâtre, on a un théâtre qui est intéressant parce qu'il est d'époque, il est assez daté d'époque tibérienne. Il ne faut pas s'attendre au théâtre d'Orange parce que malheureusement à Fréjus, enfin malheureusement, c'est à Fréjus en fait ce théâtre, il a été Il a lié en fait le bois et la maçonnerie, hein, ce qui fait que la cavea, la grande partie de la cavea aujourd'hui a disparu puisqu'elle était en bois.
Et, oui.
Et il nous reste pas mal de vestiges qui servaient à de ces murs rayonnants qui servaient à supporter ces gradins. Vous avez donc un aqueduc évidemment, hein, Fort Muli, ville d'importance, donc ville dotée d'un aqueduc. Donc vous avez des très très beaux piliers d'aqueduc à l'entrée de la ville, hein, qui sont vraiment à l'entrée de l'agglomération. Donc ça c'est assez rare parce que vous-même vous venez de Nîmes, donc on va pas reparler du pont du Gard que tout le monde connaît, que tout le monde admire, hein. Mais pour voir le pont du Gard, c'est pas, il faut faire un peu de trajet, disons. Nous, à Fréjus, on a des vestiges un peu plus proches du centre urbain, disons, puisqu'ils ont été préservés avec le temps en partie. Donc on a des magnifiques piliers d'aqueduc. Vous avez des remparts, enfin on a aussi des remparts à Fréjus, hein. Ça c'est une particularité qui est assez spéciale parce que moi de mémoire, quand il connaît plus ou moins bien la Narbonnaise, donc j'ai visité Arles, j'ai visité Nîmes, j'ai visité tout ce qui est Vaison, de voir des portions de remparts comme on a à Fréjus, une quinzaine, vingtaine de mètres de haut, ça court pas les rues, donc on en a encore quelques belles portions ici. On a également un amphithéâtre l'amphithéâtre c'est un cas très particulier puisque contrairement à celui de Nîmes, de chez vous, ou celui d'Arles, qui ont été réutilisés avec le temps, celui de Fréjus a été complètement pillé, complètement démoli avec le temps, ce qui fait qu'il a pas mal souffert. Mais donc il a subi, il a connu en fait
une restauration.
On pourrait même parler de reconstruction en réalité, hein, c'est un sujet qui est vaste, hein. Mais donc la plus grande partie des vestiges avait été, donc des gradins, de la façade, etc., avait été complètement disparu. Donc il a été pris, on a pris la décision donc au début des années 2000 de reconstruire cet édifice et donc de lui redonner ses formes d'origine, ses dimensions d'origine dans un matériau contemporain. Donc c'est un choix qui peut choquer.
Oui, ça fait polémique, hein, quand même. Hein.
Qui peut faire polémique. Oui. Je peux tout à fait l'entendre, ça serait complètement hypocrite de ne pas en parler. Donc oui, ça peut choquer, mais en réalité, quand moi, en tout cas, je vous fais visiter l'amphithéâtre, j'insiste bien, on montre des photos d'époque, d'archives, hein, on montre bien que l'amphithéâtre, il n'en restait pas grand-chose. On était plus sur une ruine qu'un amphithéâtre, en fait, en réalité, au début des années 2000. Donc il a bien fallu le reconstruire, le restaurer au maximum. Ça peut choquer, mais en tout cas, aujourd'hui, on l'a encore, cet amphithéâtre, hein, contrairement à plein de villes plein de villes romaines d'époque, je pense à Vaison-la-Romaine justement, vous avez, oui, Antibes aussi, qui avaient des amphithéâtres, hein, qui ont été reconnus archéologiquement, mais qui ont complètement disparu en fait. Donc nous au moins, à Fréjus, on le conserve encore aujourd'hui. Donc on va pas bouder notre plaisir, disons. Donc voilà, ça je dirais, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en visite guidée quand on vient à Fréjus faire la visite directement à l'office de tourisme.
Et là, je disais aussi que vous parliez de l'aqueduc, mais même si nous, on a le pont du Gard, là, quand même, il y a une enfilade qui donne bien une idée de la manière dont c'est construit. Hein. C'est assez remarquable.
Vous avez, alors oui, donc le l'aqueduc de Fréjus, hein, on est sur plus d'une quarantaine de kilomètres de long. Hein. Vous avez une enfilade de piliers qui permettent. Vous avez aussi des endroits où vous pouvez carrément rentrer donc dans la conduite, hein, puisqu'en fait, bah, évidemment, les arches en fait la conduite rentre dans le sol, donc on peut la suivre sur des kilomètres. Si on va en fait dans l'arrière-pays, si on va du côté de la vallée du Réran, on peut tout à fait retrouver des belles portions d'aqueduc. On n'est pas, mais vraiment avec des arches encore pleines,
oui,
hein,
oui, oui.
5-6 arches encore pleines. Alors on n'a pas vu nous-mêmes parce que je vous le disais, en fait, Fréjus, il faudrait vraiment une journée entière pour tout voir, hein, il faudrait un véhicule aussi pour se déplacer, mais il y a vraiment des très très belles portions, donc ça vaut vraiment le coup d'œil en fait. Hein. Donc ça, je dirais, tout ce qu'on vient de citer, tout ce qui est théâtre, amphithéâtre, aqueduc, rempart, on connaît, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les villes romaines, parce que avant de parler de mondialisation, l'Empire romain, c'est le fait de répéter les codes en fait. Hein. Dans chaque ville romaine, vous aurez toujours un forum, un théâtre, éventuellement un amphithéâtre, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Par contre, la particularité de Fréjus, je dirais, la grande particularité, c'est le port, en fait. Hein.
Oui.
On en parlait en préambule, le port, c'est vraiment la raison d'être de Fréjus. Ce port, aujourd'hui, est ensablé, est enseveli, mais du coup, il est en grande partie préservé, en réalité. Donc, vous avez des monuments romains, enfin, des monuments donc, qui appartenaient au port, romains, antiques, hein, qui sont encore visibles aujourd'hui à Fréjus et qu'on voit pas vraiment partout, en fait. Hein. Donc, vous avez des quais, vous avez des murs brise-vagues, vous avez des digues, en fait, hein, vous avez un amer aussi, ce qu'on appelle la lanterne d'Auguste. Tout ça, ça peut se voir, ça peut s'apercevoir à Fréjus. Et grâce au travail acharné de la direction du patrimoine et de l'archéologie qui est ici à Fréjus, hein, parce qu'on a de la chance de jouir d'une direction, donc
très dynamique,
d'une archéologue,
oui,
qui est municipale, hein, donc qui est à domicile, disons, hein, qui travaille jour et nuit, enfin jour et nuit toute l'année, disons, eux, en fait, commencent à excaver petit à petit ce port romain, en fait, hein, dans le cadre de l'archéologie programmée. Du coup, hein, tous les ans, vous avez une campagne de fouilles. Donc, ils ont dégagé, pas plus tard que l'an dernier, ils ont dégagé une partie des quais, encore une fois, avec le reste du coffrage qui a servi à jeter les quais sur la mer. C'est vraiment très intéressant. Et dans un futur proche, plus ou moins proche, hein, ils dégageront ce port romain, en fait, hein, qui est un très grand port romain, donc il faut les moyens de le faire, il faut l'effectif pour le faire. Mais un jour ou l'autre, on parlait de navires, on parlait des galères de Cléopâtre et de Marc-Antoine, il est peut-être possible qu'un jour on en retrouvera au moins hein, quelques fragments, puisque ce port romain, qui est aujourd'hui ensablé, qui a la forme d'un terrain vague, après juste si vous regardez bien, en fait, hein, aujourd'hui, un jour ou l'autre, ils vont le fouiller et ils nous sortiront peut-être des navires, peut-être tout un tas de vestiges, comme ça a eu lieu à Antibes, comme ça a eu lieu à Arles, comme ça a eu lieu à Marseille. Dès que vous avez un port romain qui est découvert, forcément, vous retrouvez des bateaux qui sont échoués dedans. Donc un jour ou l'autre, ça va arriver.
Alors, dès que c'est accessible à la visite, vous me l'avez promis, vous nous avertissez et nous, on revient pour faire la suite de cette visite. Il nous reste peu de temps. Je voudrais quand même qu'on évoque aussi quelque chose qui m'a fasciné, les viviers.
Oui. Alors, le vivier, bah, justement, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du port, en fait. Hein. Il fait partie du port antique à l'époque. Hein. Donc, ça, un vivier, donc un bassin pour conserver le poisson à l'époque, parce qu'on parle évidemment d'un temps où c'est compliqué de conserver le poisson très, très, très longtemps. On n'a pas de froid artificiel, il n'y a pas de frigo, évidemment. Donc, comment font les Romains pour conserver le poisson qu'ils pêchent? Eh bien, ils le ramènent vivant sur terre et ils les rejettent dans des viviers, donc dans des bassins artificiels. Hein. Ce vivier-là, donc, on en connaît plein dans le monde romain, des viviers, hein, mais un vivier si bien conservé, c'est quand même très rare. Hein. C'est même, on peut le dire, on peut le dire, c'est sûrement le mieux conservé qu'on connaisse aujourd'hui, d'époque romaine. Hein. Parce que il y a eu la chance ou la malchance d'être complètement enseveli avec le port, du coup. Et donc, dans le cadre de l'archéologie préventive, hein, en 2008, hein, donc il y a une quinzaine d'années déjà, les archéologues de Fréjus, de l'équipe municipale de Fréjus, ont pu mettre à jour ce vivier. Et donc, il est dans un état de conservation complètement incroyable. Hein. Pour le voir aujourd'hui, il faut descendre donc sous terre, dans une espèce de souterrain, parce que le bâtiment archéologie préventive, donc dans le cadre d'un projet d'aménagement, il était découvert dans ce cadre-là, mais ce projet a été mené à terme. Donc aujourd'hui, vous avez le bâtiment qui est construit au-dessus, du coup, et en dessous, pour le voir, ça a été aménagé. Voilà. Vous pouvez descendre voir ce qu'il y a dans une espèce de...
Alors, avec une technicité incroyable, mais nos auditeurs, j'en suis sûr, iront voir sur place, parce que c'est déjà le temps de nous quitter. Je vous remercie beaucoup, Jérémy, et à bientôt.
Merci à moi-même.
Au revoir.
À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.